7. Sortir de terre. À Paris, les journaux s'indignaient de cet événement dramatique. On comptait 25 blessés, 14 morts, dont 2 enfants et 3 femmes. La compagnie avait reçu l'ordre de renvoyer les ouvriers belges et de cesser l'occupation militaire des fosses. Quelques jours plus tard, les mineurs découvraient de nombreuses affiches sur les murs. La direction annonçait sa volonté de réconciliation. Ouvriers de Montsou, toutes les fosses ouvriront lundi matin. Nous examinerons les situations et nous ferons tout ce qu'il sera juste et possible de faire. Mais peu d'hommes croyaient à une amélioration des conditions de travail. Après la mort de son mari et de sa fille Alzire, la Maheude avait accepté de loger Catherine et Étienne, mais elle leur parlait peu. Elle vivait dans la douleur et s'opposait toujours à la reprise du travail.
« Ah non ! Après avoir tué le père, ils vont exploiter les enfants. Et toi aussi, tu parles d'y aller, après tout le mal fait aux camarades ?»
dit-elle à Étienne. Il ne savait comment calmer la douleur de la pauvre femme. Il décida de quitter la maison. Dehors, des hommes et des femmes le regardaient avec hostilité. Étienne entendait des menaces et des injures. On l'accusait, on le désignait comme le responsable de tous les malheurs, lorsqu'il a rencontré Chaval, qui criait à la vengeance. Il a reçu des pierres. Rasseneur l'a accueilli et a réussi à calmer la foule. L'aubergiste retrouvait sa popularité d'autrefois, mais il n'avait plus de courage, il avait peur de la violence de ses camarades. Ce même jour, il y avait un grand dîner chez les Grégoire, pour les fiançailles de Négrel et de Cécile. Tout se passait le mieux du monde. On évitait de parler des derniers événements tragiques. Un seul invité semblait préoccupé, c'était Deneulin. Il était obligé de vendre Jean Bart et les mines qu'il possédait, car il était ruiné. Souvarine avait décidé de partir définitivement. C'était sa dernière journée de travail, mais il n'était pas retourné dans sa chambre, chez Rasseneur. Il marchait dans la nuit et il comptait les heures. À minuit, il s'est dirigé vers le Voreux. Il était certain que la fosse était vide jusqu'à 2 heures du matin. Avec la précision d'un bon ouvrier, il savait ce qu'il venait faire. Le sabotage des installations. Malgré des réparations récentes, certains passages n'étaient pas assez consolidés et il en connaissait le danger. Souvarine est descendu dans la fosse en comptant les échelles. Il avait repéré où menait son travail de destruction. Quelle pièce de bois couper pour provoquer un éboulement? Il s'attaquait aux endroits les plus fragiles, ceux qui ne résisteraient pas aux infiltrations d'eau. Il agissait avec méthode pour que les camarades ne s'alarment pas tout de suite et ne réparent trop vite les dégâts. Au moment où Souvarine sortait de la fosse sans être vue, Catherine se levait sans faire de bruit. Mais Étienne, qui l'avait entendu, lui a dit doucement « Qu'est-ce que tu fais ?
Je me lève. Je retourne travailler à la fosse. Ne dis rien. » Il voulait la retenir, mais, étonné lui-même, il a dit « Attends, je vais avec toi. »
Tous les deux avaient mis leurs vêtements de travail, sans faire de bruit, pour ne pas réveiller la Maheude. Ensemble, ils sont partis vers le Voreux. Souvarine observait les mineurs qui arrivaient. Il ne pensait pas qu'ils seraient si nombreux ce jour-là. Il a arrêté Étienne.
« Où vas-tu ? » lui a dit Souvarine, en le retenant par l'épaule. « Rentre chez toi, je le veux !»
Étienne a protesté.
« Je t'interdis de me juger. J'ai mes raisons d'y aller. »
Puis Souvarine a aperçu Catherine et il a compris. « Alors adieu. » Immobile, Souvarine regardait le couple qui entrait dans la mine. Pour la reprise du travail, on comptait environ la moitié du nombre habituel de mineurs. Mais chaque descente était alarmante, car la cage d'ascenseur rencontrait des obstacles qui provoquaient des fuites d'eau. Une fois arrivés en bas, les équipes avaient des difficultés à s'organiser car la priorité était la réparation des parties endommagées. Chaval avait attendu pour faire partie de l'équipe d'Étienne, et très vite il avait crié des injures à Catherine. Ils étaient dans la galerie nord, à 3 kilomètres de l'accès central de la mine. Les hommes étaient occupés au boisage et la jeune femme devait transporter la terre. Dès le premier aller-retour, elle était inquiète et leur a dit « J'ai appelé, personne n'a répondu.
L'équipe a entendu de grands bruits et a senti le danger. Quand ils ont décidé de rejoindre l'ascenseur, de nombreux ouvriers se précipitaient à chaque départ d'une cage. La panique grandissait avec le niveau de l'eau qui montait. Peu à peu, les parois se rompaient, le puits se bouchait. La cage ne redescendait plus. Était-il abandonné au fond de ce trou ? À l'extérieur, Négrel demandait des nouvelles au contremaître. Il était certain que des hommes étaient encore au fond de la mine. Il voulait comprendre ce qui s'était passé. Des femmes, informées de la catastrophe, arrivaient et criaient « Les noms ! Les noms !» Et Négrel a répondu « Dès que nous saurons les noms, nous les ferons connaître. Je descends !» La foule attendait en silence devant le puits pendant que l'ingénieur allait vérifier l'installation. La partie supérieure était en bon état, mais arrivé à la partie inférieure, à 300 mètres sous terre, il a entendu des cris et il a constaté l'ampleur du désastre. À un endroit, il a nettement vu le boisage scié. C'était un travail de destruction. On avait voulu cette catastrophe. Il a donné le signal de remonter, car la terre commençait à bouger au-dessus de lui. La Maheude était là. Elle pensait que sa fille se trouvait au fond et elle attendait, pleine d'angoisse. Dans l'après-midi, plusieurs installations et des structures métalliques entières, déstabilisées par les mouvements souterrains, ont complètement disparu dans la terre. L'attente était insupportable pour les familles des 15 disparus. Plus loin, Souvarine s'est levé. Il avait observé le désastre et il partait maintenant vers une destination inconnue. À Paris, les journaux parlaient de la destruction spectaculaire du Voreux et on se passionnait pour le sauvetage des victimes. Les survivants oubliaient la grève et n'avaient pas peur de risquer leur vie pour secourir leurs camarades. Après avoir étudié les plans, Négrel a supposé que les mineurs étaient dans les parties supérieures pour échapper à la montée des eaux. Il a lui-même accompagné les sauveteurs depuis le site de Réquillard, le seul accès possible. Le troisième jour, ils allaient perdre espoir quand Zacharie est sorti de la fosse. Il disait qu'il avait entendu des appels au secours, très loin. Les ouvriers ont continué à creuser dans cette direction, mais ils avançaient très lentement. Le frère de Catherine devenait fou, et il n'écoutait plus les ordres. Il manquait de lumière, et à un moment, il a ouvert sa lampe malgré les fuites de gaz, provoquant une explosion. Il a été tué sur le coup. Ses compagnons étaient gravement brûlés. Malgré ce nouvel accident, le sauvetage allait continuer encore pendant plusieurs jours. Quand ils avaient compris que l'ascenseur ne descendrait plus, les mineurs étaient partis très vite dans les galeries supérieures pour échapper à l'inondation. Catherine et Étienne étaient maintenant séparés des autres, car un énorme bloc de terre venait de tomber. La jeune femme était paralysée par la peur. À chaque éboulement de terre, elle répétait « Je ne veux pas mourir ! Je ne veux pas mourir !» Étienne tentait de la rassurer. Il lui disait que les secours allaient arriver. Ils étaient tous les deux extrêmement fatigués. Catherine s'était endormie quand Étienne l'a prise dans ses bras, car l'eau montait de nouveau. Il y avait un passage étroit vers une galerie supérieure où il pouvait se réfugier. C'est là que se trouvait Chaval, seul. Deux compagnons étaient morts à ses côtés, sous des blocs de terre, mais il avait pu prendre leurs lampes et les tartines qu'ils avaient avec eux. Malgré la situation extrême, Chaval continuait à provoquer son rival et il mangeait devant le couple affamé. Puis Catherine, qui ne supportait plus ses douleurs d'estomac, a accepté une tartine. Chaval devenait violent avec elle et Étienne lui a dit « Laisse-la tranquille ! Laisse-la ou je te tue !» Ce n'était pas leur première bagarre, mais cette fois, Étienne était comme fou et il a donné un coup mortel sur la tête de Chaval. Catherine et Étienne étaient maintenant tous les deux isolés du monde. Depuis combien de temps étaient-ils bloqués sous terre ? Ils ne savaient pas. Soudain, la jeune femme s'est levée et a dit « Écoute !» Au loin, ils entendaient trois coups espacés. C'était bien le signal des sauveteurs. Il fallait leur répondre. Trois coups et une nouvelle réponse leur a donné espoir. Toutefois, ils comprenaient que leurs camarades venaient de Réquillard et la distance était énorme avant d'arriver jusqu'à eux. Ils étaient au fond de la mine depuis 6 jours. Catherine souffrait terriblement de la faim. Étienne a trouvé des morceaux de bois pourri qu'ils mangeaient pour calmer un peu leur douleur d'estomac. Il pouvait boire l'eau qui coulait sous terre, mais Catherine avait de la fièvre et elle s'éloignait peu à peu de la réalité. Elle imaginait qu'elle était dehors, sous le soleil. Elle parlait beaucoup, puis elle s'est endormie dans les bras d'Étienne. Ils s'aimaient enfin sans obstacle. Étienne avait peur de la réveiller. Il ne bougeait pas. Après plusieurs heures, il a touché son visage. Elle était très froide. Elle était morte. Il ressentait un désespoir extrême quand il a entendu des voix, puis il a aperçu une lampe. Ses yeux n'étaient plus habitués à la lumière, des camarades l'emportaient. Enfin, il a reconnu Négrel, debout devant lui, bouleversé de trouver un survivant. Étienne avait passé 6 semaines à l'hôpital. Il était encore très maigre, mais il se sentait la force de partir. Le syndicaliste Pluchart lui avait envoyé de l'argent pour faire le voyage jusqu'à Paris. C'était enfin le printemps et il respirait l'air pur. Après 2 mois et demi de grève, le travail reprenait et il voyait les mineurs de plus en plus nombreux qui se dirigeaient vers les mines. Les conditions de travail n'étaient pas meilleures, mais il n'avait plus le choix. Étienne voulait dire au revoir à la Maheude. Celle-ci avait accepté un poste très difficile, 10 heures par jour par une chaleur de 40 degrés. « Alors tu pars ?»« Oui, ce matin, » a répondu Étienne. « Tu as raison. Ça m'a fait plaisir de te voir. Je n'ai rien contre toi. Ce n'est pas de ta faute, non. C'est la faute de tout le monde. » Alors la Maheude lui a serré la main. Étienne, très ému, quittait enfin la fosse. Le soleil se levait. Il se sentait plus fort après cette terrible expérience au fond de la mine. C'était le printemps. On entendait le chant des oiseaux. Et une nouvelle vie recommençait pour Étienne, qui gardait l'espoir d'une société meilleure. Il poursuivrait son combat à Paris.